19h, 20h. Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM en ce début de week-end. Et oui, ça fait plaisir à notre Mourad pour un nouveau numéro de Time Sport. Nous sommes le vendredi 27 novembre. N'oubliez pas que on peut réagir tous ensemble. Et oui, les auditeurs de Beurre FM en composant le 01 53 48 3000. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous décrocher, vous faire passer à l'antenne. Au menu de cette émission, ce vendredi soir, Lille, l'éclaircie française. Et oui, dans cette fameuse campagne européenne, mais aussi le fameux Chelsea-Tottenham, le choc pour la place de leader en Angleterre. Avoir sanctionné par l'Olympique Lyonnais, sans oublier que le feuilleton téléfoot est très loin des attentes et attaque nos confrères de Canal+. Et enfin, on terminera avec Tony Oka versus Hammer en boxe. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi, pour m'accompagner, on aura Vivien. Comment ça va, Vivien?
Ça va et toi, Bilal?
Ça va très très bien. Juste en face de Vivien, on retrouvera Mourad. Ça va, Mourad?
Ça va très bien, Bilal, et toi?
Ça va bien, c'est le week-end. C'est Kamel, bien. La présidente est avec nous.
Ça va, super.
Et oui.
Et puis là, je...
Et Mourad arbore un magnifique maillot des canonniers, c'est bien ça.
J'ai su qu'on allait évoquer un match londonien aujourd'hui, donc...
Et oui, Mourad.
J'ai essayé de faire honneur du mieux que je peux à ce club d'Arsenal.
C'est ça, en tout cas. Oui, oui, Kamel.
Un bonsoir à nos auditrices et nos auditeurs.
Et oui, de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. Eux, ils font honneur au football français, c'est les Lillois.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, ils éclaircissent un peu et ça fait du bien. C'est Vivien qui me le disait. Le football français est-il en train de définitivement couler? Alors que l'on entendait, c'est vrai, une hausse de niveau. Champion du monde, finaliste du dernier championnat d'Europe. Mais bon, l'équipe de France va bien, mais ses clubs, c'est autre chose. Mourad.
Je pense que tu l'as bien mentionné. Je pense que c'est un des seuls éclaircissements qu'on peut se mettre sous la dent d'un point de vue de la performance des équipes françaises en Coupe européenne. Lille, enfin, indépendamment du PSG, je pense qu'il est sur une autre sphère. Lille, j'ai l'impression que c'est une des seules équipes qui allie à la fois cohérence au niveau du projet sportif, à travers le recrutement, cohérence au niveau du jeu, par rapport au système mis en place par Galtier, mais aussi au niveau du résultat, puisqu'ils sont là en tant que supporters lillois. Je pense qu'aujourd'hui, ils se portent bien. Ils sont deuxième de Ligue 1. Ils sont premiers dans leur poule en Europa League. Ils viennent de battre l'AC Milan, enfin sur deux matchs, avec une équipe diminuée hier. On pourra en reparler du match d'hier. Donc je pense que tout va bien, tous les feux sont ouverts du côté du LOSC.
Kamel, justement, après Mourad.
Oui, après c'est vrai qu'ils ont fait, ils ont fait un énorme résultat, parce que aller gagner à Milan et faire match nul contre les Milanais, c'est compliqué. Mais comme disait Mourad, c'est vrai.
Bien sûr.
Le problème des clubs français, c'est qu'ils veulent surfer sur divers projets. Un coup ils vont faire la formation, un coup ils vont acheter des joueurs, et alors que Lille dès le départ a mis en place un projet, ils ont fait de la formation, ils ont acheté des joueurs bankable, etc. Et ils sont restés pourquoi? Parce que aussi ils avaient un vrai directeur sportif et ils avaient des vrais dirigeants. Et puis après, bon, il faut aussi l'entraîneur Galtier, il est allé à fond dans ce projet, et c'est ça, c'est-à-dire que eux ils ont tenu un projet, et je pense que si ça continue avec Galtier, du moins j'espère qu'il va rester, parce que je pense qu'il va aller sûrement, on en parlera peut-être, à Marseille, parce que c'est son rêve. Mais si ils tiennent d'ici 2-3 ans, ils pourront jouer la deuxième place et aller un petit peu titiller le PSG, parce que PSG est au sommet et personne peut le titiller, mais au moins un peu titiller. Et je veux dire c'est ça, mais les Français, c'est un coup on fait de la formation, comme Marseille, un coup on fait de la formation, un coup on a 7 des Brésiliens avec un préfixe igno, là, les tocards là qu'on nous vend à 10 millions, 15 000 euros.
Tu parles de Luis Enrique?
Ouais, Luis Enrique. Enrique Igno, là, ou je sais pas quoi, là, c'est ça. Et donc, eux, ils sont restés sur un projet, ils l'ont tenu. Un grand respect aussi pour le président de Lille, parce que lui, il a tenu ses engagements, il est bien resté.
Bien sûr.
Et voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, Lille va être. Bon, il y a le PSG, mais ça va être la seule embellie du football européen français. C'est ça qui est grave.
Je pense que pour une bonne recette, il faut tous les ingrédients.
Oui.
Et là, du côté lillois, il y a tous les ingrédients.
Ah oui.
Il y a le projet sportif, il y a le recrutement, il y a l'entraîneur,
il y a
la qualité
sportif,
de jeu, il y a le directeur sportif.
Il y a le président
ils
aussi.
Assument, ils, le président aussi. Ils assument aussi leur statut de club de trading. Par contre, par opposition au LOSC, moi j'ai envie d'évoquer aussi, puisqu'ils ont joué l'Europa League hier, l'OGC Nice. L'OGC Nice, qui c'est totalement une catastrophe. Je pense qu'il faudra en parler un peu. qui se font racheter, contrairement au LOSC, par la première fortune d'Angleterre.
L'une des plus grandes fortunes
Et l'une
aussi,
des plus grandes fortunes au monde. Et du coup, est-ce qu'il serait peut-être temps pour Vira de jeter l'éponge? Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis qu'avec l'effectif qu'il a, on peut en discuter, on peut débattre. Hein. Il a quand même des Dolberg, il a des Amine Gouiri, il a des Attal, il a des Camara, il a des, et j'en passe. Il a Schneiderlin aussi, qui était quand même qui a une certaine expérience en Premier League, etc. Je pense qu'avec cet effectif, à minima, il peut jouer au moins la qualification au deuxième tour de l'Europa League et au moins le top 10 ou le haut du tableau en Ligue 1. Le haut du tableau en Ligue 1, même s'ils sont habitués à moins bien, mais avec ses investissements, etc. Je pense qu'ils prétendent au moins à mieux. Et en l'occurrence aujourd'hui, avec ce qui se passe. C'est assez désolant et je me dis est-ce que c'est pas une, enfin est-ce qu'il serait pas mieux peut-être de remettre en question Patrick Vieira en tant que coach. Je me dis que si on donnait les clés du camion à un autre coach que Patrick Vieira, je suis convaincu qu'il ferait mieux parce qu'aujourd'hui tout, enfin on lui donne tous les moyens pour réussir quoi en fait.
C'est vrai qu'il a pas mal de difficultés. En plus depuis que Dante s'est blessé, t'as l'impression à chaque fois Nice ils encaissent beaucoup de buts. Enfin c'est même incompréhensible. Enfin même encore hier soir, t'es dominé tactiquement. Enfin t'es dominé dans tous les compartiments du jeu quasiment.
Quand t'as ta charnière centre, quand tu dois te reposer seulement sur la défaillance de Dante pour pouvoir justifier tes défaites,
ça donne cette impression là du côté de Vieira.
Si c'est Dante qui tient la baraque et qui te permet de passer un cap à l'OGC Nice, je pense que il y a une grosse remise en question à avoir du côté de ce club.
Oui, en tout cas, ils font honneur.
L'OGC Nice ?
Non, Lille.
Bien sûr, Lille fait honneur. Lille fait honneur, bien sûr. C'est plus qu'honneur.
Aujourd'hui, Marseille, le Paris Saint-Germain en demi-teinte.
Oui, il faut savoir aussi que en cas de défection du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il se peut que ce soit le seul club en lice pour la Coupe d'Europe. Et ça, c'est incroyable quand on se prétend être dans le top 5 des championnats européens. Je pense que c'est assez impressionnant quand même. On peut refaire hein, l'état du football français. Je pense que c'est un problème de culture. Pour moi, les footballeurs français, on a l'impression que ils sont pas à leur place en championnat de Ligue 1. On a tous l'impression que passer les frontières, ça devient des joueurs exceptionnels.
Peut-être qu'ils travaillent plus aussi à l'étranger.
C'est un débat qui a été fait et refait.
Non mais c'est vrai parce que vous avez raison tous les deux parce que les Français ils prennent. Les jeunes Français, ils prennent le championnat de France pour un pied,
un tremplin.
Ouais. Ça veut dire que ils jouent. On va évoquer le problème d'Aouar tout à l'heure. C'est la même chose. Ça veut dire ils jouent tranquille. Ils se mettent au niveau de la Ligue 1, tranquille. Ils sont là. Et après, dès qu'ils vont à l'étranger, là, ils mettent les bouchées doubles. Ils s'entraînent. Ils deviennent des grands joueurs. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que, en vérité, la Ligue 1, c'est pas l'un des cinq meilleurs championnats du monde. C'est faux, c'est totalement faux. Elle doit être 7e, 8e parce qu'ils sont.
Je te donne un exemple, Kamel. Par exemple, quand tu vois que l'OGC Nice, qui est quand même, je crois, dans le top 5 au niveau des fortunes françaises, au niveau des clubs européens, est battu par le Slavia Prague. Je crois qu'il y a un budget d'un club de Ligue 2. J'avais vu ça justement aujourd'hui dans la presse, qu'il y a un budget d'un club de Ligue 2. Donc on se dit à un moment que l'argent n'est pas tout, que le jeu, etc. Mais justement, quand on regarde les prestations de Patrick Vieira et de l'OGC Nice, on se dit, ok, il y a une défaillance d'un point de vue résultat, mais d'un point de vue jeu aussi, en fait. Il n'y a rien de proposé, c'est stérile. Les schémas sont les mêmes, les rencontres se suivent et se ressemblent. Donc je pense que c'est au niveau de la DTN qu'on doit revoir tout ça. Au niveau du championnat de France, on doit insuffler une nouvelle culture,
intéressant.
Une culture du jeu. Puisqu'on peut se cacher derrière les performances de l'équipe de France, mais je pense que c'est au plus bas niveau, au niveau amateur, au niveau des centres de préformation, qu'il faudrait insuffler quelque chose de nouveau pour redorer le blason un peu des clubs français pour qu'ils puissent à terme performer en Coupe d'Europe.
Moi, je pense que.
Alors, Kamel.
Je vais citer feu Louis Nicolin. Il l'a dit bien avant de mourir, le problème du football français, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il surpaye des joueurs moyens. C'est ça le problème, c'est qu'ils surpayent des joueurs. C'est-à-dire des joueurs comme Payet, 400 000, 500 000 euros. Mais vous imaginez, ça veut dire 400 000, ça vient de Prague, ils ont un effectif pour ce prix-là par mois. Donc je veux dire, c'est ça le problème, c'est qu'il faut remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire redonner un minimum de salaire aux gens, parce que les 100 000 euros, les 200 000 euros, le mec, il a fait 3 matchs de Ligue 1, il va négocier 3. Mais en plus, on donne des sommes, mais c'est astronomique. Et le SMIC, c'est à 1000 euros, le SMIC. Moi, c'est un truc de dingue. Les gens, ça veut dire, quand on me dit les joueurs sont fatigués, moi, ça mérite. Parce que moi, c'est un ouvrier qui est fatigué, qui va se lever à 4h du matin, qui va prendre le RER à 6h du matin, jusqu'à 20h du matin dans les chantiers et tout ça, et même derrière un bureau, et pour gagner quoi, 1200, 1300 euros brut.
Kamel, on parle de sport.
Non, mais après, on me dit.
Tu nous entends, Kamel ne s'adresse pas à toi.
T'inquiète pas, on va revenir sur le sujet.
Après, on me dit, les joueurs, ils sont fatigués, ils sont payés le minimum 40 000 euros, le maximum truc, et. et il s'entraîne 2 heures par jour. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, le mec, il est payé 100 000 euros, il s'entraîne 2 heures par jour. Il travaille 2 heures par jour.
Oui, non, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, il y a des joueurs qui sont censés être les figures de proue de chaque club, notamment Dimitri Payet qui est censé être le leader technique.
Le Marseillais, oui.
De l'OM. Aujourd'hui, il est payé un certain salaire, mais on l'attend justement en termes de performance à ce niveau-là. Mmh. Et aujourd'hui, on ne l'y attend pas. Je pense que le jugement a été mauvais dès le départ d'un point de vue sportif. Quand on regarde la pyramide des âges, il est plus sur la fin qu'au début de sa carrière. Mais indépendamment de cela, moi, pour moi, le championnat de France, comment je le vois, hein, personnellement, je donne mon avis, je le vois comme un centre de formation géant.
Oui.
Hein.
Oui.
On a l'impression que les joueurs sont en contrat professionnel, mais le CDI, ils vont pas le signer avec les clubs français, ils vont signer avec les clubs anglais, ou les clubs espagnols, ou les clubs allemands.
Ils vont signer leur premier. Ils vont signer leur premier contrat pro quand ils vont à l'étranger.
Exactement.
Voilà, ils se mettent dans la peau d'un professionnel. Avant, c'est des aspirants. Ils sont en Ligue 1 et c'est des aspirants. Et après, dès qu'ils vont aussi dans un club étranger, hop, c'est des pros et ils remettent
parce qu'ils mettent le bleu de chauffe, arrivent à l'étranger, passer les Pyrénées, passer la Manche, passer les Alpes. Et ensuite, ils se disent professionnels. Je pense que peut-être il faudrait revoir les contrats professionnels en France, au niveau européen, et leur dire,
quand même.
C'est des stagiaires.
Ah, il veut tout changer. Mais aussi, c'est un architecte,
mais
moi.
Ce que vous dites, est-ce que aussi c'est pas lié à l'entourage qui va peut-être dire à ses joueurs, voilà, en Ligue 1, gère-toi, de toute façon, tu mérites un plus grand club, etc. Moi, j'ai l'impression que l'entourage, pour certains des joueurs cités, ça joue beaucoup sur ce côté-là.
Non, mais moi, je pense, et je l'ai dit, c'est Louis Duclin, il a raison. Ça veut dire que les dirigeants, ils payent trop leurs joueurs.
Ah bien sûr, bien sûr.
Et quand un joueur, il signe un contrat n'importe où, à Marseille, etc., et le mec, on lui donne 400 000 euros, mais le mec, il se prend pour une star.
Ah, mais c'est logique. Pour des stars, oui.
Et son entourage, il le pousse à être encore plus une star.
Oui.
Ils vont lui dire, tiens, va. Tu vois, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que s'ils étaient payés normalement, ce qu'on paye normalement, même être payé 40 000 euros par mois, est-ce qu'il y a 40 000 euros, mais c'est 10 ans de travail d'un ouvrier, c'est un truc de fou.
Après, il y a les joueurs, effectivement, ils ont une grosse part de responsabilité, il y a les politiques de salaire, etc. Mais il y a aussi les coachs. Quand je vois Patrick Vieira hier, qu'est-ce qu'il raconte à ses joueurs quand ça fait 2-3 ans que tu patines dans la semoule? Qu'est-ce que tu racontes à la mi-temps? En fait, à tes joueurs, est-ce que tu leur dis muscle ton jeu, Robert, parce qu'il a été témoin de ce qu'avait dit Aimé Jacquet. Est-ce que tu leur dis autre chose? Comment se fait-il qu'avec Patrick Vieira, on ne constate pas d'évolution, d'électrochoc au sein de son équipe, sachant qu'il a tous les moyens pour réussir? Donc il y a les joueurs, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs parties qui ont leur part de responsabilité. Il y a les joueurs, il y a les directeurs sportifs, les centres de formation, il y a aussi les coachs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en Ligue 1, on a l'impression que c'est les chaises musicales. On voit toujours des coachs
qui sont
au même club et qui rebondissent dans d'autres mêmes clubs. Et c'est juste incroyable. Donc, comment veux-tu insuffler une nouvelle dynamique quand tu as toujours les mêmes personnes à la tête de politique de jeu, de politique de recrutement de certains clubs? Donc, moi, je pense que c'est toute cette dynamique-là qu'il faudrait revoir.
Voilà. Ah. Comme il a dit, on a plein de coachs formatés FFF pour moi. Mais après, le pire, c'est est-ce qu'on aime des entraîneurs exigeants? C'est par exemple on a eu l'exemple Bielsa il y a quelques années, mais là je penserai à d'autres exemples de ce type là un peu qui pourraient peut-être amener d'autres choses.
Je pense que c'est dans la nature française. Ça veut dire les joueurs français, ils ont qu'une envie, c'est d'être professionnels, de signer leur premier contrat pro, de gagner de l'argent et de s'amuser après. C'est ça leur truc. Je généralise, mais c'est ça veut dire que le gamin, il va tout faire pour être. Il va aller à l'INF Clairefontaine, etc. Il va tout faire. Il va faire des sacrifices.
Il se donne à fond aussi.
Il va se donner à fond pour signer son contrat. Et dès qu'il a signé son contrat pro, c'est la fin de sa carrière. C'est-à-dire, il a signé, il a pris son oseille, et là, il va aller s'éclater. Il va aller en boîte de nuit, il va faire ses
vacances.
C'est exactement ça.
Non, mais en fait, aussi, on peut aller vraiment de manière approfondie au niveau de la politique de formation en France. Quand tu as évoqué justement l'INF Clairefontaine et les fameux pôles espoirs qu'on trouve dans chaque région. Pour moi, les pôles espoirs, c'est l'antithèse du football, en fait. On produit des monstres, des joueurs comme Atem Benarfa, qui vont évoluer la semaine en pôle espoir à l'INF Clairefontaine et qui reviennent le week-end pour jouer avec leur club, avec leurs petits copains, en disant ben, « Moi, je suis meilleur que toi. » Donc, comment tu veux évoluer dans une ambiance collective, sachant que tu es formé comme un monstre isolé toute la semaine? Donc ça aussi, c'est des choses, ça va pas dans le sens du football. Je pense pas qu'en Espagne, c'est cette politique de formation, ni en Angleterre ou en Allemagne. Donc, il y a plein de choses à voir.
J'évoque
Atem Benarfa, c'est un monstre malgré lui. Il est très talentueux. Et moi, j'aurais bien aimé avoir un Atem Benarfa, avoir un sentiment d'appartenance à un club avec lequel il a pu grandir. Là, on parle de Lyon, etc. Mais Lyon, on peut dire qu'il a acheté à acheter un gamin à l'INF Clairefontaine pour pouvoir en faire un cador du football français. Et moi, c'est pas ma conception du football. Et je pense que dans beaucoup de pays et beaucoup de fans de foot aujourd'hui, ce n'est pas la leur non plus.
Non, mais de toute façon, c'est un problème de c'est la DTN. De toute façon, la DTN, ils veulent garder le monde pro sous leur coupe. Ils veulent tout faire, ils veulent tout garder. Ils veulent pas donner. C'est-à-dire, ils font passer les diplômes. Au niveau de l'équipe de France, c'est que des entraîneurs français. Non, mais c'est la vérité, c'est ça. C'est-à-dire, ils veulent. On dirait, c'est leur.
Il y a de tout comme mal. Hein.
Ils ont fait passer le diplôme.
Il y a tout le monde.
J'ai vu la photo de classe de la promo DTN de, je sais plus, c'était l'année dernière ou celle de cette année. C'est impressionnant, quand
bah
même.
Bah oui.
Mais il y avait une photo de classe cette année.
Les minorités visibles, on les voit pas trop. Hein.
Ah. Ils sont invisibles.
Contrairement à l'émission Time Sport, je vous invite d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux et vous verrez que c'est assez.
Moi,
il y a de tout.
Vivien.
Bah, ouais, mais après le problème c'est quelles sont les solutions. Enfin, un homme en fait, tous les constats sont bons, mais
je vais t'expliquer comment on va changer les choses. C'est-à-dire que quand il y aura plus d'argent comme média pro, quand il y aura plus de médias.
Bah, t'auras Canal Plus.
Mais quand il y aura plus de médias qui vont mettre 500, 600, 700 millions, et ben ils vont revoir leur politique parce qu'il y aura plus d'argent. Ils auront plus de quoi payer. C'est ça leur problème. C'est-à-dire qu'il faut les taper à la poche. C'est ça le truc. C'est-à-dire c'est un problème. C'est incroyable. Donc je veux dire, et arrêtez de se targuer, de dire on est le troisième championnat d'Europe. Mais non.
Non, on est le sixième, septième.
Mais le fait de dire.
On est dans les 5 premiers.
Arrêtez de se cacher derrière.
On est dans les 5 premiers quand même. Dans le top 10, moi j'aimerais bien savoir. Il y a que 11
championnats européens de valable qui sont dans le top 10, sont 10e. C'est normal.
J'aimerais bien voir les critères d'éligibilité justement sur ou de classement de ces championnats européens. Parce que
quand tu vois les coupes d'Europe, ça vient de Prague, ils battent Nice, tout le monde. À chaque fois qu'ils viennent en France, ils nous mettent une déculottée.
C'est incroyable quoi.
Non, mais moi je te dis, c'est les joueurs. Les joueurs, ils sont fautifs. Après, t'as les coachs, t'as la DTN, mais moi le plus. Et après, le plus, c'est les joueurs. Les joueurs, ils sont trop payés.
Surtout, ils ont pas faim. Qui est Time Sport. Vous restez avec nous. Et aussi, vous pouvez réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Farid Roy se fait un plaisir de vous répondre et de vous donner toutes les infos. Concernant la planète sport, oui, Kamel.
Je voudrais juste dire, regardez le niveau de la Ligue 1 en France. Cardinal.
Ouais.
Coach de Ligue 1 à Nice. Il a même pas sa place dans une équipe de district. Vous vous rappelez, Cardinal, vous connaissez?
Je connais le gardien.
Voilà le niveau du football français.
Cardinal, reste avec nous, chers auditeurs de Beurre FM. On parlera de Première Ligue. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, n'oubliez pas, toujours en live du lundi au vendredi, 19h-20h, accompagné de Kamel, de Vivien et sans oublier Mourad. On va aborder le cas, du choc de cette Première Ligue de ce dimanche après-midi.
Time Sport.
Et justement, on retrouvera les Blues de Chelsea face au Tottenham Hotspur de José Mourinho. Et oui, un match qui débutera, je crois, à 16h30. Oui, c'est bien ça, ce dimanche. Et oui, avec des équipes peut-être probables. Loris, le grand portier. On aura aussi Doherty, Aurier, on espère, l'ancien parisien. Ou encore de l'autre côté. On verra bien qui on retrouvera. Mais il faut noter les blessés. Lamela.
On retrouvera pas que Giroud je pense qu'il pourrait rentrer.
Alors, il pourra, il fait du bien. Quand même.
Il a marqué cette semaine quand même.
Mais oui. International français, champion du monde aussi, il faut le rappeler.
On va pas consacrer une partie d'émission à Giroud,
mais ce match-là quand même.
Quand on lui donne confiance, généralement, il la rend bien. Après tu parles de course au titre inédite pour Chelsea Tottenham.
Et leader aussi.
Et justement pour le poste de leader de la Première Ligue. Je pense que c'est pour tous ceux qui regardent un peu la Première Ligue, ils ont toujours été dans la course au titre, même si là on les a jamais attendus aussi prématurément tout en haut.
Je suis d'accord.
Et moi pour moi ce match-là, indépendamment de tout ça, c'est l'élève Lampard contre le maître Mourinho. Et sur ces deux dernières années, Lampard a souvent pris le dessus face à Mourinho. Donc je pense que, à charge de revanche, du côté de Mourinho, je pense qu'il a à cœur de,
et un,
de reprendre le leadership sur la ville de Londres, parce que, indépendamment de du titre, la tête de première ligue, il faut assurer sa domination sur la ville de Londres.
Ouais.
Arsenal est hors de course aujourd'hui. Mais, et là, c'est vraiment Chelsea-Tottenham qui est en jeu. Mais il y a aussi Mourinho qui doit prendre sa revanche sur les deux dernières victoires. Il y a aussi eu tous les matchs aussi mémorables auxquels on a assisté. On appelle ça le bridge game, en fait, Tottenham Chelsea. Donc on a eu des belles affiches et je pense qu'on peut s'attendre à un spectacle incroyable dimanche. Après, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un match, personne en a parlé, c'était début septembre, il me semble, en Carabao Cup, où José Mourinho était parti chercher Eric Dyer dans les toilettes parce qu'il était coincé et le match avait repris. Donc voilà, il y avait ce fait
le tour du monde.
Là, je pense qu'on va regarder ce match et on s'en souviendra, non pas pour ce fait divers, mais plus pour le jeu qu'il y aura de proposer à Stamford Bridge.
Ouais, Vivien, Kamel. Vas-y, du beau jeu dans le championnat anglais.
Oui, après, pour moi, Chelsea, ça a toujours été un concurrent titre. Enfin, je crois le titre, c'est quoi, affiche surprise, enfin, je sais plus, peu importe. Depuis cette saison, ils ont perdu quoi? Depuis fin septembre, ils ont pas perdu. C'était contre Liverpool, ils avaient pris 2-0 à domicile, mais depuis un mois, je sais pas, moi, je les sens plutôt monter en régime. Je sais pas comment vous sentez Chelsea, mais.
Ouais.
Chelsea, moi, je les vois même favoris légèrement pour dimanche.
Ah, ouais.
Chelsea est toujours favori.
Ouais.
Depuis l'ère Abramovich, Chelsea est toujours favori, même s'ils ont des coups de moins bien.
À domicile, là, ça veut rien dire vu qu'il n'y a pas de spectateurs. Mais
exactement. Donc, on va pas ressortir la phrase de Ribéry à domicile comme à l'extérieur. Le stade Vélodrome est toujours magnifique. Mais Chelsea est toujours redoutable. Ils ont la meilleure attaque. Ils ont fait un recrutement incroyable. Ils ont une équipe offensive, même si inexpérimentée, insouciante. Je pense que ça peut être leur atout, contrairement aux Spurs qui sont très organisés avec un Mourinho revanchard. On connaît les deuxièmes saisons de Mourinho et qui peut s'appuyer sur le duo exceptionnel
Son et
Harry Kane. Donc c'est pour ça que moi je m'attends à un choc des cultures dimanche.
Ouais, avec beaucoup de buts,
avec une belle affiche, avec beaucoup de buts et deux philosophies qui vont s'affronter.
Ouais, c'est ça, parce que Chelsea ça joue. Ils ont une grosse possession de balles. Mais Tottenham ils vont en contre, donc ça va très vite. Donc c'est vraiment ces deux façons de jouer qui font l'attrait du match, parce que voilà, si tu joues on en parle du Manchester City ou pas? Non, ils sont pris 2-0 et puis ils sont 13e avec le meilleur entraîneur du monde, Guardiola, qui a jamais rien gagné avec
Messi. Il a tout gagné avec Barcelone quand même.
Non, mais justement,
ça
fait pas longtemps.
Et puis il a eu un chèque en blanc avec ils ont acheté pour 500 millions de défenseurs. C'est des même en Ligue 1 ils sont meilleurs qu'eux. Mais voilà, mais je veux dire que non ça va être
Si.
Il y a des joueurs en Ligue 1 qui sont meilleurs que les défenseurs de Manchester City. Je vous le dis franchement. Je peux le dire.
Je pense à Ruben Dias. Je vois pas. Enfin, à part Marquinhos, je vois pas au-dessus. Laporte, pour moi, la Ligue 1, ce serait peut-être en pré-retraite et encore. Je pense que c'est un problème de schéma et d'animation pour Manchester City. On a l'impression que c'est prématuré, que c'est on a l'impression que c'est prémâché, tout est prévisible. Le système en essuie-glace.
C'est
toujours le même. On va de droite à gauche, on essaie de passer par les ailiers. En plus, l'absence de ces avant-centres qui n'arrangent pas les choses. Il y a la mise sur le banc de certains cadres et a priori qui n'auraient pas été acceptés par l'effectif mancunien. C'est la mise à l'écart de Fernandinho la mise à l'écart de Fernandinho qui était très appréciée par le vestiaire, et celle de Benjamin Mendy aussi. Donc voilà, il y a plein d'ingrédients qui font qu'aujourd'hui on a l'impression que tout est prévisible du côté de Manchester City.
On a l'impression que ils jouent pour leurs stats. Ils jouent que les stats. C'est-à-dire ils veulent pas gagner, mais ils jouent que les stats. Possession de balles, etc. C'est que ça.
Les stats sauf les points et les titres.
Parce que voilà. Non, mais moi je pense que là, ce qui est bien dans la première ligue, il y a d'autres acteurs. Il y a Chelsea qui a fait un recrutement phénoménal. Il y a Tottenham, la seconde saison de Mourinho qui a envie de prendre sa revanche parce qu'on l'a tellement critiqué que vraiment il a un peu et il a réussi la semaine dernière parce qu'il a mis 2-0 à Guardiola. Il y a toujours Liverpool qui est toujours là, hein, qui est à l'affût malgré leurs blessures. Mais non, moi je pense que c'est Voilà,
c'est bon pour la première
ligue. C'est ça qui est bon. C'est pour ça qu'on dit que c'est le meilleur championnat du monde. Parce que ça a été dominé par Manchester City plus Liverpool. Et là, maintenant c'est d'autres qui ont recruté et qui dominent. C'est ça qui est bien. Alors Exactement. Que la Ligue 1, mis à part PSG, il n'y a rien.
La couronne, elle change de tête tous les ans. Ouais. Déjà, on a l'impression du côté de la première ligue. Et on a l'impression que c'est un bon film hollywoodien avec les acteurs principaux qui sont toujours présents pour la course au titre. On a les seconds rôles. On a même des figurants qui sont là et qui
font des bons seconds rôles comme des Everton avec des grands coachs. C'est des seconds rôles.
On a des Atalanta aussi, on a des Wolverhampton, on a des Aston Villa, on a des.
Il y avait Leicester avec Brendan Rodgers.
On verra en tout cas le résultat.
Aujourd'hui, commence à faire office de quand même de vrais clubs stables qui peuvent se permettre de se qualifier de clubs du top 8. Hein, Leicester, puisqu'ils recrutent intelligemment, ils sont stables, ils ont un budget intéressant, ils ont une fanbase incroyable. Ils n'ont pas ce poids, cette pression qu'a pu avoir Liverpool avant de gagner, avant de gagner la Premier League. Ils l'ont déjà remporté en 2016. Ils ont le meilleur avant-centre de Premier League, enfin un des meilleurs avant-centres de Premier League, Jamie Vardy, Vardy répond présent quasiment tous les week-ends. Donc il y a des outsiders. C'est un championnat hyper compétitif. Et pour rebondir sur ce que dit Kamel, moi j'aurais bien aimé que la Ligue 1 soit comme ça. Et je pense que ça aurait même servi le PSG d'avoir un championnat compétitif,
je suis d'accord,
d'avoir des combats week in week out pour pouvoir affronter et aborder les matchs de Ligue des Champions dans la plus grande sérénité.
Il en manque peut-être,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est pas cela dans les terrains français.
Voilà,
sur les terrains.
Exactement.
Non, mais parce que
quand même. On termine.
Les équipes de Ligue 1, quand ils jouent contre le PSG, ils jouent le match de leur vie. Je vais le dire. Marseille, je vais dire un gros mot.
Il a gagné la Coupe de la Réunion.
Qui ont fait leur match de la vie. Ça veut dire ils ont payé Payet pour 4 millions d'euros par an pour faire un match bon contre le PSG. Voilà, c'est ça, Marseille.
Donc je veux dire. Il a fait son match.
En Ligue 1,
le match de la saison.
Mais en Ligue 1,
à la décharge de Payet, ce match-là contre le PSG, moi je me souviens l'avoir vu quasiment évoluer au poste d'arrière gauche. Donc moi je trouvais ça incroyable, je trouvais ça indécent.
On te donnera la parole
sur lesquels
s'appuyer.
C'est tout un schéma qui vont
le PSG, voir Marseille, il y a pas de problème. Quand il y aura la trêve hivernale, excusez-moi, on parlera, on fera des émissions spéciales rien que pour le plaisir des auditrices et des auditeurs de BRFM. C'est promis, vraiment.
Bilal, je veux pas vous interrompre. Kamel et moi, on n'est pas dans un débat PSG.
Mais bien sûr, on aimerait avoir ces petits débats. Kamel,
j'arrête pas de critiquer Marseille.
C'est agréable d'échanger.
Voilà, c'est agréable, il est toujours serein. Oui. Tout comme Mourad aussi ce soir, ou Vivien, en roue libre. Attends, on va aborder le cas de Tony Yoka. J'espère que tu seras assez transigeant.
C'est le futur championnat du monde.
Tu t'arrêtes, Kamel,
On passe à
l'Olympique Lyonnais cette fois-ci.
Time Sport, la victoire.
Et qui vois-je? Je vois Karim qui nous a appelé depuis Lyon. Mais avant de faire enchaîner Karim, notre auditeur, qui est toujours à l'affût de toutes les infos, se passant du côté de la vallée du Rhône avec l'Olympique Lyonnais, mais aussi du football international. La sanction prise par l'Olympique Lyonnais à l'égard d'Oussem Aouar est-elle justifiée? Alors, Mourad, selon toi,
moi j'ai lu un peu la presse aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a différents sons de cloche.
Magnifique joueur, Oussem.
Oui, indépendamment du joueur, on le connaît tous. Je pense qu'il a un petit coup de moins bien depuis sa première sélection en équipe de France déjà. Mais ensuite, pour en revenir à cette punition, si je puis dire, d'Oussem Aouar, c'est que il y a des incohérences. On a entendu dire que Rudy Garcia l'avait justement empêché de rentrer, lui avait refusé de rentrer parce que la pelouse était trop grasse et impraticable à Angers. Au moment du un victoire 1-0 sur un but de Kadewere, et que là il avait mis en avant le même argument et qu'a priori Rudy Garcia lui serait tombé dessus. Or il s'avère que c'est Juninho qui a pris la décision de l'écarter. Donc en fait ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a des incohérences, on a l'impression qu'il y a quand même une hiérarchie à l'Olympique Lyonnais. Donc il y a Jean-Michel Aulas tout en haut, on a Juninho en bas, juste en dessous. On a le jardinier de l'Olympique Lyonnais en bas et tout en bas Rudy Garcia. Donc on a l'impression que, parce que Rudy Garcia était contre la mise à l'écart de Oussem Aouar, c'est ce qu'il faut se dire. Donc on a l'impression que Rudy Garcia, il est là, c'est simplement un entraîneur, un coach, il fait ses compos en avant-match et que on a des directeurs sportifs qui prennent des décisions comme ça sur l'écartement, sur les punitions de certains joueurs. Donc même s'il y a un organigramme, pour Rudy Garcia, c'est pas très rassurant quand même. Je sais pas ce que t'en penses quand même.
Non, oui, mais c'est vrai que. Alors. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que Lyon, c'est un club fort. C'est un club fort. C'est une place forte du championnat de France. Ils ont recruté un directeur technique brésilien, Juninho. Il a rien fait pendant deux ans. Il a fait n'importe quoi. Et là maintenant, il se rend compte qu'il peut faire quelque chose. Donc il va taper sur les doigts des joueurs. Hein. Il s'entraîne pas ou etc.
Il fait ça pour exister.
Mais est-ce que moi je pense ça fait de la presse parce que est-ce que il le fait pour tous les joueurs ou seulement il a voulu donner un exemple pour Aouar. C'est ça le problème. Maintenant si Aouar il n'est pas rentré parce que le terrain était gras, mais ils vont pas lui faire 30 minutes de physique sur un terrain gras. Et en plus, il a des problèmes d'adducteur. Donc je veux dire,
Le premier organe qui est touché sur un terrain gras.
Donc, je veux dire, là, c'est absurde. Mais je pense que Juninho, il a voulu faire, il a voulu être le prof principal. Il a donné une leçon. Mais je pense que c'est n'importe quoi. C'est des trucs. Mais après, moi, je me place. Maintenant, le coach, il est obligé de donner raison au directeur sportif parce que c'est le N plus 1. Donc moi, je trouve que c'est bon. Mais après, comme on connaît pas tout ce qui se passe dans le vestiaire. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça, etc. Et c'est que c'est compliqué.
Rapidement, Mourad, avant de prendre la direction du standard.
Après, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, je suis pas dans la tête de Juninho, mais j'ai l'impression que c'est un peu de la fausse autorité. Oui. C'est facile d'écarter Aouar à la veille d'un Lyon-Reims. Moi, j'aurais bien aimé voir s'il avait eu
Lyon-Paris déjà. Voilà.
Exactement. S'il avait eu le courage de l'écarter la veille d'un match choc, d'un derby face à Saint-Etienne ou d'un match face au PSG. Je dirais pas un match de Ligue des Champions parce qu'il ne joue pas.
Mais c'est un peu
trop facile. Donc je pense que ça peut être un mal pour un bien. Après aussi, Aouar, il a sa part de responsabilité.
Aouar, on
a l'impression qu'il n'est plus là depuis sa sélection de l'équipe de France. Il y a eu un départ avorté dans un club à l'étranger, à Arsenal. Ses prestations sont en dents de scie depuis la reprise de la saison. Donc c'est peut-être aussi un petit coup d'électrochoc pour lui, pour qu'il puisse rebondir et pourquoi pas mieux le vendre.
Mais moi je suis d'accord avec l'autorité des Lyonnais. Des Lyonnais, quoi, je veux dire, c'est normal. C'est normal. On critique le championnat de France en disant oui, les joueurs ils font ce qu'ils veulent. Et quand il y a un joueur qui est sanctionné, on va dire le contraire. Je dis non. Moi c'est simple. Il a raison. C'est le directeur sportif. Il est au-dessus de l'entraîneur. Dans l'organigramme, c'est comme ça. Il y a le président et le directeur. Dans les vrais organigrammes, Lyon, c'est un vrai.
Je suis pas d'accord.
Je
pense que c'est l'entraîneur qui gère son effectif comme il veut.
Parce que
si le terrain est gras, je pense que c'est l'entraîneur de juger, c'est pas le directeur sportif.
Mais l'entraîneur, il a pas voulu parce que l'entraîneur, il voit ses intérêts et le directeur sportif, il voit l'intérêt du club. C'est ça qui est différent. Les entraîneurs, ils veulent jouer, ils veulent toujours gagner.
Bien sûr.
Mais directeur sportif, il voit l'intérêt du club. Donc je pense que moi, personnellement, ce qu'a fait Juninho, c'est bien. Dans le sens, si ça a été ce qui a été écrit, et c'est bien. Et après, bon, c'est pas grave.
Ouais.
Il va louper un match, il va se reposer, et puis c'est pas calmé.
Je pense que. Allez, un instant, s'il te plaît. Je t'ai donné la parole. On va repartir avec Karim, qui a fait le 0153483000. Bonsoir, Karim.
Bonsoir. Excusez-moi, je suis toujours obligé de balancer une vanne pour commencer.
Ouais, allez-y, Karim.
Beurre FM et tout. J'attends toujours qu'on l'appelle Fromage FM, c'est pas qu'on passe à autre chose.
Tu ne nous as pas déjà appelé Karim? Tu ne nous as pas déjà appelé Karim?
Il a déjà appelé Karim.
Oui, parce qu'à chaque fois, c'est toi, Karim de Lyon, qui nous appelle de temps en temps.
Ouais, tu es contre Karim de Lyon aussi?
Non, mais on veut savoir s'il est avec Benzema depuis 3 mois, mais il ne nous dit jamais.
Il ne
nous
dit jamais, c'est vrai. C'est vrai, il ne dit jamais.
C'est bien moi, j'espère que vous n'allez pas me dénoncer à la police. Non, je rigole.
On vous écoute, Karim.
Ils ont d'autres affaires à gérer, la police.
On vous écoute.
Il y a deux trucs sur lesquels je voudrais intervenir. On parle d'Aouar et tout. Moi, j'ai l'impression qu'Aouar va un peu au clash maintenant avec l'Olympique Lyonnais. Parce que des terrains en mauvais état, il y en aura. Et je pense que là, je ne sais pas comment Aouar s'est mis en porte-à-faux par rapport au fait de pas pouvoir finir avec les autres et tout, le décrassage. Ouais, le décrassage, merci. Et donc, je me dis que ça change quelque chose de peut-être plus important et tout. Pas la mise à l'écart, mais le fait qu'avoir en ce moment et tout, j'ai l'impression qu'il commence à vouloir être
transféré au mois de janvier, c'est ça?
Est-ce que, Karim, moi j'ai une question pour toi.
Ouais.
Est-ce que c'est un ressenti ou est-ce que tu tiens ça d'une source sûre suite à un partage de repas avec Awar, un partage de tacos avec Awar à la Guillotière? Je te l'avais dit la dernière fois, tu te souviens?
Ouais, je l'ai rencontré place du Pont. Je lui ai pris un kebab, il m'a tout dit.
Ah, je ne serais pas surpris.
Il est bien, ce gars.
Honnêtement et tout, et je me dis qu'Awar en ce moment, il n'est pas bien là-bas, mais je suis persuadé qu'il va aller encore plus au clash. Parce que je le vois même revendiquer, ouais, je m'entraîne pas, et le terrain est gras et tout. De la part d'un professionnel, ça me paraît vraiment bizarre.
Ouais.
Après, je dirais, sur une chose et tout, tout à l'heure, j'ai pas pu le faire, c'est au niveau de la Ligue 1.
Oui, la Ligue 1, comme le disait Kamel.
Ouais, Kamel disait, ils sont surpayés. Moi, j'ai envie de dire à Kamel, tu crois que c'est parce que tu vas te donner 1500 euros qu'il va mieux jouer?
Ouais.
Non, j'ai pas dit ça.
Non. Ce que je veux dire, Kamel et tout, c'est qu'il y en a un qui a soulevé le problème. Pour moi, en France, il y a un problème de formation. À un âge très tôt, dans certains pays, on commence à jouer au foot. En France, on fait de l'athlétisme, on fait des tours de terrain. Qu'est-ce que tu vas avoir à niveau? Moi, j'étais initiateur football.
Mmh. Ouais.
On nous dit que, tu sais quoi, un gamin, jusqu'à l'âge de quand tu commences, à 13 ans, il doit tout savoir faire pratiquement. Et donc, je me dis, en France,
Moi, je pense que c'est au niveau de la théorie, ça va encore. Tu as dit que tu étais initiateur football, je pense que tu as passé ton CFFP 1, 2, 3, 4, ouais, etc. Au niveau de la théorie, enfin, tout est constructif, on apprend en grandissant, on essaie de d'inculquer des valeurs de jeu, le contrôle, la passe, les échanges avec les joueurs, etc. Donc je pense qu'au niveau de la théorie, ça va. Je pense que c'est au niveau de la pratique en fait que le problème subsiste en France.
Attention, quand tu dis au niveau de la théorie, ça va et tout. Parce que moi, j'ai initié le football et tout, j'ai pas mal, bouclier, quoi.
Ouais.
Je me dis qu'un âge où tu apprends à jouer collectivement, c'est très tôt.
Non.
Donc, si on attend un peu, je pense qu'en France, on attend un peu tard avant d'inculquer le jeu collectif. Donc, ça la vision du jeu, quoi.
D'accord, ouais.
Qu'on attend trop tard.
Oui, je pense que c'est trop peut-être axé sur l'individu en fait que sur le collectif, c'est ça, c'est ce que
non,
tu
veux
dire.
Mais regarde Karim, moi je vais te dire, les joueurs quand ils signent un contrat pro, d'accord, ils vont signer, il y en a qui vont toucher 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, ils veulent des primes à la signature. Mais comment tu veux qu'un joueur, il puisse être comparé avec des joueurs dans son vestiaire, des joueurs qui touchent 2 000 euros, 3 000 euros? Il est déjà un enfant star. Tu vois, c'est ça. Et il a rien montré. Ils ont rien montré. Tu vois, ils ont rien montré. Ils ont 10 matchs de Ligue 1 et on leur donne 40, 50, 60 000 euros. Mais le mec, mais voilà. Et après, c'est un enfant star. Tu lui dis, va faire 3 tours de terrain. Il va regarder son entraîneur à travers. Il va dire, mais hey, je gagne plus que toi. Qu'est-ce que je vais faire 3 tours de terrain? Tu comprends, c'est ça? C'est ça.
Je parle de la formation en général, tu vois. Parce que oui, tu auras toujours des cracks, des gens comme ça. Et il y en a qui pètent un peu les plombs. Il y en a, mais je parle de la formation en général, dans la base. La formation concerne pratiquement tous les jeunes. Après, qu'elle est, ça qui soit au-dessus, bon, et qui prend la claire fontaine et que ça devient des types un peu, moi je suis plus fort, moi.
Oui.
Après, je pense que c'est pas eux qui choisissent de payer, tu vois. C'est comme ça, c'est la société. On les paye, c'est pas eux qui demandent de salaire. C'est des choses qui sont établies au niveau du football et tu peux rien faire.
Ouais.
Oui, non, je suis d'accord, je pense.
Oui, réaction.
Quand les joueurs de première ligue, quand ils touchent 800 000 euros, non, mais je crois toujours qu'ils réclament le salaire.
Non, mais un joueur de première ligue qui touche 2000 euros ou 800 000 euros, il se battra toujours de la même façon sur le terrain. Tu vois, et parce qu'il joue, pour son maillot.
Oui, parce que c'est une question de culture.
Oui, voilà, c'est une culture. C'est une question de culture. Parce qu'on est là, on est là en France. Hein, je veux dire, on est tous dans le même bateau. On est là pour gagner de l'argent. Tu vois, on dit pas le footballeur, le professionnel. On va dire, regarde le joueur du Paris Saint-Germain là, qui est parti au Bayern de Munich. Il a signé son premier contrat pro au Bayern de Munich. Il est maintenant à la cave au Bayern de Munich parce qu'il a pas le niveau. Mais au Paris Saint-Germain, il jouait. Il avait du temps de jeu. Pourquoi il n'est pas resté dans son club? Parce qu'on lui a donné plus d'argent. Mais une carrière, ça se construit. Non, je veux dire, une carrière, ça se construit. Tu vois, je veux dire, tu gagnes pas.
Tu sais, derrière, il y a des agents, il y a des.
Oui, mais moi, Karim, je suis d'accord avec toi, mais faut pas tout remettre sur les agents. Il y a un moment donné, il signe pas à leur place. C'est lui qui signe, le mec. D'accord. Donc, on dit l'entourage, etc. Mais il y a un minimum. Faut pas déresponsabiliser les joueurs non plus, tu vois.
Non, mais après, toi, le gars, il part assez jeune et tout.
Ouais.
À son âge, qu'est-ce qu'il va faire, lui?
Ah bah tu préfères jouer 30 matchs en avec le Paris Saint-Germain qui est une super équipe d'Europe ou faire banquette au Bayern de Munich. C'est incroyable, c'est n'importe quoi le type.
Moi je suis assez partagé au niveau de surpayer les joueurs et parfois de leur en donner en fonction de leur niveau. Je pense au cas du jeune Wesley Fofana justement qui est parti pour des raisons d'argent. Qui est parti à Leicester, on se souvient tous de sa phrase
ouais.
J'y vais pour mettre la famille à l'abri, etc. Un Saint-Etienne, de pouvoir s'aligner d'un point de vue salaire pour qu'il reste et qu'il puisse justement élever ce club de la Saint-Etienne pour qu'il puisse faire bonne figure en Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'argent, on le donne aux mauvaises personnes en Ligue 1. Kamel le disait tout à l'heure, on le donne à Payet. Pourquoi pas le donner à, je sais pas moi, au jeune Lahadji qui est parti à Lille, lui donner un certain salaire ou donner un Maxime Lopez pour qu'il puisse rester. C'est le mauvais exemple. Mais j'ai l'impression qu'on mise sur les mauvais chevaux.
Merci Mourad. Un grand merci à Karim. On n'a plus le temps, Karim. On doit faire une petite pause. La dernière.
Merci encore une fois.
Merci super Karim. Un bon week-end à Karim depuis Lyon qui nous a appelé ce soir dans cette émission qui est Time Sport. Une dernière courte pause avant de revenir avec toute l'équipe.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Eh oui, une pensée singulière à Maradona, Diego Armando. Eh oui, quand même, hein. Ah là là, il aurait fait les merveilles des canonniers d'Arsenal. J'allais dire Chelsea, mais non.
Non, mais.
Eh oui.
Mais on va. Il y en a qui veulent pas comparer, mais moi je me dis si Maradona jouait maintenant, mais ça serait le meilleur joueur du monde actuellement. Je veux dire, c'est sûr. Je veux dire, on peut comparer les époques, mais moi je veux dire maintenant, c'est vraiment s'il était né dans les années 2000-2010, et ben ça serait le meilleur joueur du monde parce que voilà, c'est comme on a dit, même si notre réalisateur n'aime pas, c'est Dieu est mort, voilà.
Moi-même, qui suis un peu trop jeune pour l'avoir vu évoluer. Parce que je suis un peu curieux, je me suis un peu intéressé. Quand je revois les matchs de Diego Armando Maradona sur YouTube ou quoi, j'ai l'impression que ses coéquipiers ou ses adversaires ont un peu des gestes un peu désarticulés. On a l'impression que c'est un football d'une autre époque. Alors que Maradona, non, c'est tout à fait du football moderne.
Ouais.
On est sur des dribbles rapides, sur des longues courses, des conduites de balles incroyables, des crochets dévastateurs.
Ouais.
Donc, je crois sur parole, Kamel qui me dit, ou certains amis avec qui j'ai pu échanger, ou même la presse, de l'incroyable joueur qu'a pu avoir été Maradona, mais aussi indépendamment du joueur, l'homme derrière.
On passe rapidement, Kamel.
Mais moi, j'invite tous les jeunes là qui sont sur Instagram, etc.
Ouais, sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, à regarder sur YouTube avant les matchs les entraînements de Maradona, ce qu'il faisait avec le ballon.
C'est assez fou.
Et vous allez voir, c'est de la folie. Parce que quand il y a des joueurs qui signent à Barcelone, Real de Madrid, et qu'on leur dit fais trois jongles, ils savent pas faire trois jongles. Voilà. Et ben là, vous verrez, c'est quoi un artiste.
C'est vrai que c'est assez humiliant. Ouais. Je pense à Ousmane Dembélé sur cette anecdote.
Mais c'est incroyable les entraînements de Diego Maradona. Hein. À Barcelone ou encore même à Naples, quand il s'entraînait tout seul intensivement, c'était fou. Même chez lui. Hein. Et quand il faisait ses fameuses vidéos dans le noir.
Un génie précoce.
Ouais. Maradona nous a quittés, oui, à l'âge de 60 ans, on tient à le rappeler, même à tous les auditeurs de Beurre FM. Nous, on va parler cette fois-ci, de nos confrères de Mediapro ou est-ce Canal+.
Time Sport, le mode pressing.
Ok, Vivien, dis-nous tout. Il t'arrive quoi?
C'est le week-end. C'est le Maradona des chaînes.
Mais tu peux pas dire ça, Vivien. Mediapro qui n'a donc pas payé l'échéance des droits TV, Kamel, de la Ligue 1 du mois d'octobre. Eh oui, Mourad. Et a attaqué en justice nos confrères de Canal+, pour abus de position dominante. Étonnant, peut-être. Ah oui, ça te fait sourire, mais peut-être pas les abonnés, hein, qui nous écoutent aussi ce soir.
Mais c'est incroyable. Je veux dire, ils assignent Canal+ pour position dominante, alors que c'est eux qui ont le marché. C'est incroyable. Je veux dire,
devaient payer 172 millions.
Oui, déjà, ils devaient payer 170 millions au 5 octobre, ils ont pas payé. Les 162 millions, ça va être ils vont pas les payer au mois de décembre. Mais le pire, c'est qu'ils assignent Canal+. Bon, ça va rien faire. Mais voilà, ils cherchent des moyens de contourner les choses, mais je l'avais déjà dit et je le répète, c'était une arnaque, ce média. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Canal Téléfoot, ils ont 480 000 abonnés, donc c'est mort parce qu'ils devaient en avoir loin des 3, pas trop loin des 3,5 millions, donc ils ont 480 000 abonnés, alors que le président de Mediapro avait dit qu'il y en avait 600 000, mais bon, même 600 000, même 1 million, c'est mort. Donc je veux dire, c'est mort, ils sont morts. Et maintenant, Canal Plus a fait une proposition de reprendre les droits pour 700 millions. Et puis voilà, et puis ça va revenir normal. Mais à signer Canal Plus, non, ça c'est des effets de manche, comme on dit dans les cours de justice. Les avocats, ils font des effets de manche, etc. Mais oui. mais c'est une aberration quand même.
Oui.
Pour reprendre le jargon un peu, on va dire. Autour des avocats de la justice, je pense que c'est une stratégie de rupture de la part de Mediapro en accusant Canal Plus d'abus de position dominante. Aujourd'hui, sur le marché, si on lit un peu la presse économique, qui est-ce qu'on accuse d'abus de position dominante? C'est les GAFA, c'est Google, c'est Amazon, etc. Est-ce que Canal Plus, sur le paysage audiovisuel français, fait office de...
Mais non, ils ont perdu les droits.
Ils ont perdu les droits, donc ils sont, ça reste un petit. Enfin, sur le, oui. Donc voilà, vous m'avez compris. Et je pense que indépendamment de tout ça, il y a un audit qui a été fait. Donc encore une fois, ça donne raison à Canal+, et ça, et j'irai même jusque remettre en cause les membres de la LFP qui ont signé justement pour que Mediapro devienne le primo diffuseur de la Ligue 1 en France. Il y a une audit qui a été mis en avant, les failles ont été constatées. Donc comment se fait-il que cet audit ait pu mettre en avant les failles alors que tous ceux qui ont examiné l'appel d'offres n'ont pas pu les constater? La solution Canal+, elle devient elle devient la plus raisonnable.
Non, mais à la limite Canal+ n'a rien demandé. Si on fait l'historique de la situation, Canal+ n'a rien demandé. Mediapro, ils ont gagné jusqu'en 2024 les droits, faut qu'ils payent, et s'ils payent jusqu'en 2024, ils auront les droits, c'est simple. Canal+, ils sont là, c'est comme ça, parce que il y a que ce média, parce que avant les présidents de club on moquait Canal+ en disant oui, vous voulez pas nous donner plus d'un milliard, nous notre ligue à vous ça, ben voilà, vous les avez. Mais maintenant il y a rien. Et je veux dire, et moi j'avais lu une interview de Maxime Saada, le président de Canal+, il avait dit moi,
il avait mis en garde,
moi demain donner un milliard à la ligue, ça mettrait en danger ma société. Donc je préfère me retirer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça a été un vrai chef d'entreprise, Maxime Saada, quand il a dit ça. Et ben voilà, mais maintenant l'autre il a joué au poker, il joue poker menteur, il s'est fait attraper, ça y est, maintenant qu'il passe son tour et ils vont revenir à 700 millions. 700 millions, c'est déjà bien, parce que sinon s'il y avait pas Canal+, s'il y avait que des mecs comme Mediapro, ça serait le football français à l'heure actuelle, il serait mort, hein. S'il y avait des bonimenteurs, les cascards du média, des médias comme Mediapro, et ben je veux dire parce que là c'est grave, parce que les clubs ils sont, excusez-moi l'expression, ils sont en galère. Je veux dire financièrement, ils ont pas les recettes des spectateurs, ils ont budgétisé leur budget sur les recettes de Mediapro, ils sont vraiment en galère parce que là si Canal+ vient pas en sauveur, on va licencier des administratifs, des pères de famille, parce qu'au-delà des footballeurs, mais les footballeurs trouveront toujours du travail, mais c'est incroyable. Donc je veux dire, pour moi, c'est criminel ce qu'a fait Mediapro.
Ouais.
Moi,
on n'a plus le temps.
Si je peux finir là-dessus.
On n'a plus le temps.
Attendez-vous
désolé, moi.
Hold up 2 sur la LFP et Mediapro.
Et suivez Yoka Meurs ce soir.
Et c'est ça à partir de 22h30. Merci et bon week-end à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.